Évangile de Luc, chapitre 1. L'Évangile de Luc, chapitre 1, et nous lirons les versets 26 à 38. Luc, qui a entrepris d'aller auprès des témoins oculaires de ces événements, il est dit dans les quatre premiers versets de son évangile, nous donne ce récit de ce qu'il a entendu, et sans doute notamment de la part de Marie. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demandait ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? En d'autres termes, je suis vierge. » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, qui naîtra, sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Voici la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. Il est important pour nous de prendre le temps de comprendre et de contempler comment notre Dieu a fait lorsqu'il envoie son Fils dans le monde en tant qu'homme. Parce que dans ces événements, nous voyons Dieu. Nous voyons sa manière typique d'agir pour sauver. Nous sommes placés au bon endroit par rapport à Dieu lorsque nous comprenons sa manière de venir vers nous. Et je voudrais vous parler de cinq choses que nous voyons dans ces événements qui se rapportent à la manière dont Dieu nous sauve ou vous sauvera. La première chose, c'est que nous voyons dans la manière de cette visite de Gabriel à Marie qu'en sauvant, Dieu agit d'une manière souveraine. Dieu agit pour vous sauver d'une manière souveraine. Quand Gabriel arrive, il dit à Marie, tu vas concevoir, tu vas enfanter, ce sera un fils, Tu le nommeras Jésus, il sera ceci, il sera cela. Et Gabriel ne demande pas la permission de Marie. Aujourd'hui, nous avons cette folie meurtrière des femmes occidentales qui disent que que le fait d'être en grossesse, c'est leur corps, je fais avec mon corps ce que je veux. Nous voyons que c'est tout le contraire. Gabriel dit, voilà ce qui va arriver et ce n'est pas à toi de décider oui ou non. C'est Dieu qui donne vie, c'est Dieu qui rend enceinte, pour toutes les femmes d'ailleurs. Mais ici, d'une manière particulière, mais quand Dieu vient vers nous, il vient d'une manière souveraine. C'est ça que je vais faire pour vous. C'est absolument formidable. La personne, que ce soit Marie, cette fille inconnue, cette jeune vierge, l'endroit, Nazareth, qui est un village tellement inconnu et petit que Luc doit expliquer où ça se trouve. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Parce que les gens ne vont pas savoir où c'est. Mais c'est ce village que Dieu choisit parce qu'il veut montrer que moi je fais ce que je fais, je n'ai pas besoin du bras de l'homme, de sa puissance, je n'ai pas besoin de Rome, de New York, de Paris ou de Jérusalem. Je vais faire venir le sauveur du monde entier à Nazareth, que vous ne pouvez même pas trouver sur la carte. Marie, Nazareth, aussi le timing. Que ce soit au moment précis où Marie est fiancée, vierge, mais pas encore mariée. Mais de sorte que dès que le garçon est né, il aura ce papa humain de substitut, Joseph. Il va grandir dans une famille avec père et mère comme il le faut, mais il va être conçu et né d'une manière qui Joseph n'a pas contribué. Le timing est absolument le fait de Dieu, du Dieu souverain. Dieu, vous avez remarqué, n'est pas en train de faire appel aux besoins ressentis de Marie. Gabriel ne vient pas pour essayer de convaincre Marie de donner à Dieu une plus grande place dans sa vie. C'est vraiment pas le ton de cet événement, n'est-ce pas? Gabriel ne dit pas « Dieu voudrait bien une place plus grande dans ton histoire, Marie. » C'est en fait tout le contraire. L'histoire est celle de Dieu, chers amis. C'est son histoire qui est en train de se dérouler ici. Et il saisit Marie dans sa grâce et son amour et lui donne une place privilégiée dans son histoire. Et nous devons comprendre cela, sinon nous n'allons jamais comprendre vraiment l'évangile. Il y a des gens qui essaient de faire venir Jésus dans leur histoire, dans leur vie simplement, pour que leurs affaires s'arrangent. C'est pas ça l'évangile. Gabriel vient pour dire, allez, tu vas jouer ce rôle dans l'histoire de Dieu. Et notre place dans ce roman qui est vrai, dans cette histoire vraie, notre place c'est d'être saisi, créé, gracié, ramené à Christ et devenu le peuple chéri de Dieu. Mais c'est son histoire. Et quand on lit cette histoire de ce que Dieu fait dans l'existence, la conclusion c'est « Il est merveilleux, il est incroyable, il est le personnage principal. » C'est pas Marie, c'est pas toi, c'est pas moi. Et si nous ne comprenons pas cela, nous allons toujours abuser l'évangile. Donc nous devons comprendre que Dieu est souverain, c'est lui, c'est son histoire, c'est sa volonté souveraine, il est Dieu. Et nous voyons même que Les hommes n'ont aucune contribution à faire dans cette affaire de la conception de Jésus, de sa naissance. Parfois, on donne l'impression que Dieu est quelqu'un qui est là, qui attend, qui nous attend, qui regarde et qui attend à nous récompenser pour toutes nos bonnes œuvres. Parfois, la religion chrétienne est présentée comme ça. C'est un Dieu passif qui nous donne des choses à faire, mais c'est nous qui faisons, c'est nous les acteurs. Et lui, il est là, attend pour que nous fassions ce bien, et puis il répond. Et lorsque Gabriel vient, envoyé par Dieu vers Marie, c'est tout le contraire. Dieu n'est pas en train de répondre à quoi que ce soit en Marie, il est en train de prendre l'initiative vers Marie, n'est-ce pas? Et quand Marie dit, mais comment est-ce possible? Elle ne sait même pas comment ça peut arriver, tellement elle n'a pas de contribution dans l'affaire. C'est comme si Dieu lui disait, tu es en train de penser de l'ancienne manière. C'est Dieu qui vient vers toi. C'est Dieu qui intervient maintenant. C'est lui qui va faire quelque chose, qui est au-dessus de toi. Bien sûr, tu ne vas pas tout comprendre. Donc ça, c'est la première chose que nous devons remarquer, que Dieu est souverain, glorieusement souverain dans sa manière de sauver. Deuxièmement, en nous sauvant, Dieu agit d'une manière non seulement souveraine, mais surnaturelle. Surnaturelle. Regarde la manière dont il donne cette information à Marie. La Bible nous dit, il envoie dans cette ville de Nazareth, chez cette vierge fiancée, l'ange Gabriel. Verset 28, il entra chez elle, apparemment dans sa maison. Fou, une lumière, une apparition d'un ange. Rappelez-vous que lorsque, à un moment donné, un ange apparaît à quelqu'un comme Daniel, et c'est toujours comme ça, Daniel est plaqué par terre, juste par la vue. Et il dit, j'étais comme un homme mort. Toute la force était vidée de mon corps dans un instant, simplement par la grandeur, la splendeur de l'ange. Et donc, cet ange Gabriel, qui est un archange, il entre chez elle et il dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole. La chose qui lui arrive, et Luc ne raconte pas tout, Luc sait que ses auditeurs ou ses lecteurs savent ce que c'est qu'un ange. Ils savent ce qui s'est passé à Abraham ou Daniel lorsqu'un ange est venu vers eux. Donc il n'explique pas toute la source de cette frayeur, mais elle est profondément troublée. Elle tremble, sans doute, devant cet ange, parce que c'est surnaturel. Un autre monde, maintenant, entre dans le monde naturel. C'est tellement au-delà des forces et des principes de ce monde que nous connaissons qu'elle est ébahie. Et Dieu est comme ça. Et il vous sauve comme ça. Il agit d'une manière qui est simplement d'un autre monde, d'un autre mode d'existence. Gabriel connaît son nom, il lui dit son avenir, il lui dit l'avenir du monde, parce qu'il dit que Christ va régner sur le monde. Dans le texte, nous n'avons pas une indication que cette conception est pour tout de suite, mais apparemment, Marie sait tout de suite. Elle sait que c'est pour maintenant. Comment est-ce possible? Je suis vierge. Elle sait qu'il ne veut pas dire qu'une fois que dans quelques mois tu épouses Joseph, tu vas concevoir. Elle a compris que Gabriel est en train de faire quelque chose de surnaturel, annoncer quelque chose de surnaturel. Peut-être aussi la nouvelle d'Élisabeth, sa cousine. Parce que quand Gabriel, le même ange, est allé vers Zacharie, il a dit, ta femme va concevoir, et c'était tout de suite. Et sans doute Marie est tout à fait au courant. Et maintenant, l'ange vient vers elle. Moi, je pense que c'est indéniable qu'elle pensait tout de suite, ah, mince, maintenant c'est moi. Et quand une nouvelle naissance miraculeuse est annoncée, elle sait que c'est pour tout de suite, là où je suis, surnaturel. Et même si Élisabeth passe de l'infertilité vers la fertilité par un miracle, Marie, c'est encore mille fois plus grand. Parce que c'est pas simplement que cette fois que Dieu répare ce qui ne marchait pas, comme pour Élisabeth, mais il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de cellules reproductives masculines. Il n'y a pas ce qu'il faut pour concevoir. C'est un peu la différence entre si Dieu guérissait un homme dont les yeux ne marchaient pas, ou Dieu faisait voir un homme qui n'avait pas Dieu et lui donnait des yeux. Vous voyez la différence entre la chose. Donc, tout ce que Gabriel lui dit est d'un ordre différent que notre ordre. Il lui dit qu'elle va concevoir de manière surnaturelle. Il lui dit que cet enfant sera appelé le Fils du Très-Haut. Et elle lui dit, apparemment, parce que son nom sera le Fils du Très-Haut, parce que il est né d'une manière complètement unique et surnaturelle, parce que lui, il est complètement unique et surnaturel. Bien sûr, c'est pour cela qu'il sera appelé le Très-Haut, et qu'il ne peut pas naître d'une autre manière que cela, parce que c'est le Dieu créateur qui se fait homme. Et enfin, il lui annonce que ce fils va régner éternellement sur le monde. Tout cela, on est dans une atmosphère complètement incroyable pour nous. Quand l'ange part, et cette lumière brillante, et cette gloire qui donne à Marie le sentiment effrayant qu'elle est toute petite, quand il part, elle est toute seule. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle ressent? Vers qui est-ce qu'elle court pour donner la nouvelle? Comment est-ce que tu vis après quand un ange t'est apparu? En tout cas, Dieu, quand il sauve l'humanité, il ne peut que le faire d'une manière surnaturelle. Du début à la fin, de la conception en Marie jusqu'à la résurrection, nous sommes devant quelque chose qui n'est pas des forces et des principes de ce bas monde. Troisièmement, en nous sauvant, nous avons dit que Dieu nous agit de manière souveraine et surnaturelle, mais troisièmement, en nous sauvant, Dieu expose et juge notre impuissance et nous remet à notre place. Ce qui est très important pour nous, ça fait partie de notre salut. Pensez à ceci. Ce jour-là, lorsque Gabriel arrive dans cette petite maison de rien du tout, la race humaine tout entière a désespérément besoin d'un sauveur, d'un rédempteur. Mais le problème, c'est que la race humaine ne peut rien faire pour produire un sauveur, la sorte de sauveur dont elle a besoin. Et donc, dans cette visite de Gabriel, nous voyons que le fait que Dieu va faire souverainement et surnaturellement venir un sauveur, nous voyons que c'est parce que nous n'avons rien pu faire. Marie est face elle-même avec son incapacité, son impuissance même de comprendre comment est-ce possible. Elle est un peu remise à sa place. Elle se sent toute petite lorsque Dieu commence à agir. Et vous voyez qui il est, ce qu'il fait. Nous sommes mis devant ce fait et nous disons, est-ce possible? Comment cela peut-il se faire? Et Gabriel doit lui reprocher tout gentiment, avec beaucoup de tendresse, et lui dire tout simplement, rien ne sera impossible à Dieu. Il y a des millions de gens qui aujourd'hui ne croiront pas une chose à moins qu'ils puissent le comprendre. Le problème avec cela, c'est que Dieu ne peut pas être compris dans toute sa grandeur infinie. Il peut nous faire comprendre un peu, mais Marie est laissée quand même avec une grande partie de mystère, de quelque chose qui est simplement plus grande qu'elle. Et voilà une personne qui dit, par exemple, parce que j'ai entendu de telles choses, je ne peux pas croire en Dieu parce que il est impossible qu'un être puisse entendre toutes les prières de millions de personnes qui lui parlent au même moment. Donc, pour moi, c'est la preuve que Dieu n'existe pas parce qu'il n'y a personne qui puisse faire cela. L'ignorance d'une telle objection est tellement grande que j'arrive mal à croire qu'il y a des personnes qui puissent être tellement ignorantes. Mais je le dis avec pitié parce que il y a des gens. Mais le problème avec une telle pensée, c'est que Dieu n'est pas un homme. Dieu a créé le temps. Quand on dit écoutez tous ces gens qui lui parlent en même temps, sous-entend qu'il est soumis au temps et il doit les écouter, alors que le temps, il ne subit pas. Il y a 1000 ans, c'est le présent. 1000 ans pour lui est comme un jour, et un jour comme 1000 ans. Et la Bible nous dit qu'avant qu'il y ait un mot sur nos lèvres, il sait tout déjà. Depuis toute éternité, une éternité qui n'a jamais eu un commencement, Dieu savait tout ce que vous alliez jamais lui demander, et il le savait dans tous les détails, et il savait à quel moment vous alliez demander, et il n'apprend jamais rien de nouveau. Et oui, tout le monde peut lui parler en même temps, et pour lui, c'est comme si une seule personne lui parle posément. Il est autre, il est surnaturel. Et nous devons prendre notre place devant ce que Dieu fait et reconnaître que nous ne pouvons pas le cerner ou le limiter par nos conceptions de lui. Ésaïe nous raconte ceci. Dieu a parlé à un roi qui s'appelait Ahaz, 700 ans avant Jésus-Christ. Écoutez ceci parce que c'est une prédiction de cette naissance virginale. Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, parce que Ahaz est menacé par l'Assyrie, je crois. Et donc Dieu veut lui encourager de croire qu'il est là, qu'il va prendre soin d'Israël. Et Dieu lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu, demande-le, soit dans les lieux en bas, soit dans les lieux élevés, c'est-à-dire aussi petits, aussi grands, enfin, où qu'ils soient. Je ferai quelque chose dans les cieux, je ferai quelque chose sur la terre. Ahaz répondit, je ne demanderai rien, je ne mettrai pas l'Éternel à l'épreuve. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous lasser de la patience des hommes que vous lassiez encore celle de Dieu? C'est-à-dire, Dieu te dit, demande-moi un signe. Et tu dis, je ne demanderai rien. Et Dieu dit, tu me lasses maintenant. Tu épuises ma patience. Parce que il fait semblant d'être humble, mais c'est simplement qu'il ne veut pas voir cette grandeur surnaturelle qui le mettra à sa place. Et donc, voilà ce que le texte nous dit. Isaïe continue, il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Donc, ce signe sera dans l'avenir. Ok, tu n'auras pas un signe, toi. Mais un jour, je te donnerai un signe des signes. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il y a des gens qui disent que Joseph et Marie et tout cela, enfin, au moins Joseph, il a cru que c'était un miracle parce qu'il n'y avait pas assez de connaissances scientifiques à l'époque. N'est-ce pas? Vous savez que les hommes à l'époque savaient aussi bien que nous que sans homme, une femme ne peut pas enfanter. C'est pour cela, quand il entend la nouvelle, il décide de la renvoyer en secrète. Parce qu'il ne croit pas. Joseph ne croit pas qu'elle puisse être enceinte sans qu'un homme ait eu affaire avec elle. Donc il va la renvoyer tout simplement. Il pense que Marie a eu affaire avec un homme. Il va la renvoyer. Et puis l'ange lui apparaît et le convainc que, écoute-moi, monsieur scientifique, moi je peux dépasser la science. En tout cas, tout ce récit doit quand même nous remettre à notre place, mais tranquillement, tranquillement, où nous sommes capables de dire maintenant, le Dieu qui a créé l'univers incroyable est un Dieu qui dépasse infiniment notre entendement. Quatrième, en nous sauvant, Dieu agit avec plein de tendresse et de grâce envers nous. N'êtes-vous pas content que ce soit ainsi? Toujours, nous voyons ça dans la Bible, dans l'histoire de la rédemption. Quand Dieu agit, même s'il y a ces moments de frayeur, et il y a toujours avec ça beaucoup de grâce, d'amour et de tendresse. Regarde la manière, simplement le fait qu'il vient vers Marie et vers Zacharie par l'ange Gabriel. Alors, rappelez-vous de Siméon. Siméon, le vieil homme qui va rencontrer le couple quand ils viennent présenter Jésus au temple. Alors lui, il est averti par le Saint-Esprit et il vient poussé par le Saint-Esprit. Mais Dieu lui avait dit par une intuition intérieure, par le Saint-Esprit, qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ. Et par une intuition, il vient ce jour-là, par une intuition qui vient, qui parle en lui intérieurement, il sait que c'est lui, Jésus le Messie. Mais pour Marie, elle a besoin de quelque chose de plus grand que ça. Parce que, imaginez, tu es là, tu es vierge, tu as été fidèle au Seigneur, et là tu deviens enceinte. Imaginez le pauvre. Imaginez ce que tu dois, la confusion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Donc il faut que ce soit non simplement une conviction intérieure, mais quelque chose de tellement objectif que l'ange vient, que tu ne peux jamais questionner et douter que ce qui m'arrive vient de la main de l'Éternel. C'est une chose qui n'est jamais arrivée à une femme et qui n'arrivera jamais encore à une femme. Il faut bien que ce soit un ange qui lui dise. Mais quelle tendresse du Seigneur de lui avertir de cette manière. Et regarde la sorte de salutation dans le verset 28. Il dit, je te salue, toi à qui une grâce particulière a été faite. Le Seigneur est avec toi. Ça, c'est une salutation. Elle se sent tellement indigne, tellement petite. Mais quelle bonté de venir avec un premier mot, le Seigneur est avec toi. Et ça, c'est l'évangile. L'évangile vous vient avec ce premier mot, le Seigneur vous aime. Le Seigneur veut effacer vos péchés. Ne craignez plus, croyez seulement et vous serez sauvés. Avec pleine de tendresse, il vient vers nous, n'est-ce pas? L'Église catholique, il faut que j'ouvre une petite parenthèse, je serai rapide. L'Église catholique a mal interprété ce mot ici, qui est charitomene, un verbe qui vient de la racine, d'une racine qui veut dire de simplement enrichir de grâce. Ce verbe, vraiment littéralement, veut dire Marie. Toi à qui une grâce particulière a été faite, c'est une très bonne traduction. Mais l'Église catholique a des traductions qui disent Marie pleine de grâce. Alors, pourquoi est-ce que c'est mauvais? Parce que ça donne l'impression, qu'elle est quelqu'un qui est dépositaire de quelque chose qu'elle peut donner aux autres. N'est-ce pas? Pleine de grâce. Alors que le verbe ne signifie pas ça. Le verbe signifie presque le contraire, que Dieu t'a montré sa grâce. Et la grâce n'est jamais dans la Bible une substance que Dieu peut verser en toi. C'est une attitude de Dieu envers toi. Toi à qui Dieu a montré une faveur très spéciale. Voilà. Il n'y a rien dans ce texte qui puisse... Mais c'est vraiment, je ferme la parenthèse, quelle tendresse de lui, vient lui parler comme ça à cette fille. Quand elle est troublée, regarde comment l'ange encore revient pour essayer de la rassurer. Il dit dans le verset 30, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé une faveur imméritée que tu ne peux pas perdre. » Dieu est pour toi, ma fille. Et il parle de cette manière, ne crains pas. Et ensuite, quand elle a un peu de mal à comprendre comment est-ce possible, je suis vierge, il lui donne d'abord une preuve, il lui dit, regarde ta cousine Élisabeth, elle est dans son sixième mois, car rien ne sera impossible à Dieu. Et moi, je trouve ça vraiment très frappant que pour que Marie puisse croire et embrasser, accepter cette parole de l'Éternel, le Seigneur lui donne sa cousine à elle, une plus vieille cousine, mais qui a un miracle un peu semblable. C'est comme si c'est un pas avant ce qui va être donné à Marie. Donc, infertile, elle devient fertile. Regarde ça. Déjà, tu es très au courant d'Élisabeth. Maintenant, crois-moi pour ce miracle encore plus grand. Et tout cela, il lui prend, il lui tire dans sa faiblesse petit à petit. Et ensuite, il lui explique. Parce qu'elle est dans la confusion. Comment est-ce possible? Et il lui donne juste ce qu'elle peut comprendre. Il lui dit, par exemple, que dans le verset 35, le Saint-Esprit viendra sur toi. Voilà comment ça va se passer. Il n'y a pas d'homme dans cette affaire. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ah, pour une juive, ça fait tilt. Le mot qui est utilisé, le Saint-Esprit te couvrira, Genèse chapitre 1, verset 2. Vous avez le monde informe, en état informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait, et c'est le mot couvrait, c'est les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Sans doute, Gabriel est en train de faire allusion à une nouvelle création, plus grande que la création physique première. L'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu va te couvrir comme à la création. Tu connais bien ce récit. Alors, il va y avoir une création dans ton sein. Sauf avec cette différence. La première création, au début, même avant le verset 2, était de rien. Mais ici, Dieu va prendre de ta matière, de ton corps. et il va fournir ce qui manque pour que tu conçoives. Donc cet enfant va être de Marie, véritablement, parce que c'est de sa chair, de sa cellule reproductive, mais pas d'une cellule humaine. C'est Dieu qui fera le miracle pour le reste. De cette manière, l'enfant n'est pas simplement... Marie n'est pas un incubateur qui fait grandir un enfant qui vient d'ailleurs, qui n'a rien d'elle en lui. D'accord? Vous comprenez? Cet enfant est de lui et de Marie, mais aussi de Dieu, d'une manière surnaturelle. Et il faut que je réponde à une dernière question, parce que les gens sont parfois dans la confusion dans un pays catholique au sujet de ces choses. Pourquoi fallait-il que ce soit une naissance virginale? Pourquoi est-ce que le Fils de Dieu ne puisse pas venir naître dans une femme à travers Joseph? Et il y a deux réponses qui ne sont pas bibliques. La première, c'est l'idée que les relations sexuelles auraient souillé Jésus. Pour la Bible, ce n'est pas du tout vrai. Les relations sexuelles sont créées par Dieu et bonnes. Donc il n'y a rien de corrompu là-dedans quand c'est fait selon Dieu. Deuxièmement, ce n'est pas parce que la culpabilité d'Adam est transférée à travers les pères. Donc si on outrepasse le père, Joseph, il n'y a pas de culpabilité dans l'enfant. Non, la Bible n'enseigne nulle part que la culpabilité ou la corruption est transmise par les pères. Mais cette idée a quelque chose d'une bonne piste, parce que c'est effectivement pour que l'enfant, le saint enfant, dit Gabriel, qui soit né dans une sainteté humaine complète, qui n'hérite pas de la culpabilité de la corruption de l'homme. Mais pourquoi est-ce que par la naissance virginale, il n'hérite pas cette corruption? Simplement à cause de ceci. Chaque enfant qui naît d'une manière normale est un descendant d'Adam, parce qu'il descend de la ligne des hommes qui descendent d'Adam. N'est-ce pas? Et quand il y a une naissance normale, une nouvelle personne vient en existence qui n'a jamais existé, et cette personne est vraiment provient d'Adam. Ok? Et comme il provient d'Adam, il hérite l'acte d'Adam, parce que Adam était notre représentant dans le jardin. Nous sommes solidaires avec Adam, il agit pour nous en notre nom, et donc tout ce qui descend et provient de lui hérite de sa culpabilité, de sa corruption. Mais regardez bien, quand Jésus vient, l'enfant qui naît chez Marie, dans son sein, il n'y a pas une nouvelle personne qui vient en existence. Il y a une personne qui a prédaté Adam, qui était là avant qu'Adam pêche, qui ne provient pas d'Adam dans ce sens, et donc qui n'était pas inclus dans l'acte d'Adam. Adam ne représentait pas que ce qui le suivait. Or, Jésus le précédait. Et lorsque Jésus vient, il assume cette chair humaine en Marie, il l'assume, il le prend à lui pour devenir homme, mais il n'est pas un descendant légal d'Adam. D'accord? Il accepte de rejoindre notre race, mais c'est une personne qui a prédaté notre race, qui n'est donc pas impliquée dans le péché originel. Si vous n'avez pas compris ça, ce n'est pas grave, on va finir le sermon maintenant. Cinquième chose. En nous sauvant, Dieu nous appelle à nous incliner avec foi devant ce qu'il nous annonce par sa parole. Il est venu vers vous en Christ, souverainement, de manière surnaturelle, de manière à vous remettre à votre place et vous faire sentir votre impuissance. Il est venu avec vous dans beaucoup de tendresse et de grâce dans ce message de l'Évangile. Un sauveur est né pour vous. Et maintenant, Et il faut que chacun d'entre nous, si nous ne l'avons pas fait, que nous répondons d'une manière particulière. Et nous regardons juste pour cela, à la fin du récit, si vous pouvez relire avec moi, donc du verset 36 à 38. Voici qu'Élisabeth, apparente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, celle qui était appelée stérile et dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Voici la servante du Seigneur. » En d'autres termes, « Je suis, me voici, je ne suis que la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Voilà la réponse. Marie, au début, dit « Comment est-ce possible ? Je ne peux pas le cerner, je ne peux pas, je suis dans la confusion. » C'est notre réaction devant l'Évangile. Comment est-ce que Dieu peut devenir un homme ? Comment est-ce possible ? Est-ce que ces choses se sont vraiment passées dans l'histoire humaine ? Est-ce qu'il était le Créateur réellement ? Mais maintenant, il est homme, mais homme pour toujours. Comment peut-il le faire ? Il est mort. Est-ce qu'il avait vraiment sur lui mes péchés ? Il est revenu à la vie pour toujours. Il est ressuscité. Comment est-ce possible ? Nous aussi, nous avons ces questions. Mais là, quand nous avons ces questions, nous sommes placés devant deux options, deux chemins. Une bifurcation incroyable. Chaque être humain qui entend l'Évangile. Soit vous entendez ces choses et vous vous dites, là, je ne peux pas croire, parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre comment Dieu fait ceci, à tel moment dans l'histoire, comment il a permis cela, comment il fait... Et tout cet évangile, c'est incompréhensible pour moi. Et donc, j'accepte pas. Ou bien, vous pouvez agir comme Marie. Marie a été honnête. Comment est-ce possible? Je suis vierge. Et Dieu lui explique ce qu'elle peut comprendre. Mais lui laisse avec cette phrase, rien ne sera impossible à Dieu. Rien. Que Dieu devienne homme, chers amis, qu'il meure sur une croix à votre place, qu'il vainc la mort pour toujours et devienne un homme immortel au ciel auprès du Père. Rien ne sera impossible à Dieu. Et l'autre option, c'est comme Marie, elle se place maintenant à la disposition de Dieu, elle accepte la parole de Dieu, ce que Dieu lui dit, avec tant de grâce et d'assurance, elle dit, « Je suis la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta parole. » C'est absolument merveilleux cela. Est-ce que vous l'avez vraiment dit au Seigneur ? Est-ce que vous avez dit, alors Seigneur, tu dis que tu as envoyé ton Fils, qu'il a achevé le salut, qu'il sauve pour toujours ceux qui viennent à lui, il les transforme, il les prend à lui, ils sont maintenant des gens qui deviennent disciples, qui sont avec Dieu et qui marchent vraiment avec Dieu. Et Dieu te dit, maintenant, repentez-vous et rejoignez cette bande. Et le temps doit venir où chacun doit dire, malgré nos doutes, nos questionnements, où nous devons dire, je suis maintenant le serviteur ou la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta parole. Remarquez que Marie n'a pas dit, je ferai. Il n'y a rien à faire. Qu'il me soit fait. Je laisse la place maintenant pour que tu fasses. Oui, elle va faire plein de choses. Elle va être enceinte. Il y a plein de choses à faire quand tu es enceinte. Pour manger d'une certaine manière. Mais tout ça, c'est la suite. Tout est déjà fait. N'est-ce pas? Voilà. Et pour vous, il n'y a rien à produire pour être sauvé. Il y a juste à dire, je suis maintenant ton serviteur, qui me soit fait selon ton évangile, ta parole. Gloire à Dieu pour la manière dont il vient vers nous, n'est-ce pas? C'est absolument formidable. Souveraine, surnaturelle, pleine de tendresse et de grâce, nous remettant à notre place et nous appelant simplement à répondre comme cela, que nous puissions le faire. Nous allons chanter dans le carnet, c'est le chant, pardon. Saint envoyé du Père, c'est